chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre qualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une saga, d'une série en 6 tomes signée Alexiane Thiel. Aujourd'hui, on parle des McCoy. Alors vous le savez, parce que je vous l'ai expliqué dans les dernières émissions de Mélimo de Gwen, le podcast, j'ai pris un nouveau virage dans ma lecture, dans mon goût pour la lecture, et par voie de conséquence sur le blog et sur ce podcast, puisque j'ai mis fin à pratiquement l'ensemble de mes partenariats. Il y a encore un ou deux partenariats que je vais conserver, en tout cas en one shot, en tout cas au fur et à mesure de mes envies et de mes disponibilités, mais sinon désormais sur Mélimo de Gwen, on n'est plus que sur des lectures perso et ainsi en est-il de ces McCoy. Ça veut dire aussi que souvent, on va se retrouver à aller plonger dans les limbes de ma palle. Je ne sais pas si ça vous fait le coup aussi, mais alors que j'ai beaucoup de mal à me plier à du no-buy, il n'empêche que régulièrement, je vais farfouiller dans ma bibliothèque Kindle, dans ma bibliothèque numérique ou dans ma bibliothèque papier ou même dans ma bibliothèque Audible depuis quelques mois maintenant, et je vais dégoter la pépite à laquelle finalement, je n'avais plus pensé depuis très très longtemps. Et c'est ce qui s'est passé avec ces McCoy. La saga, je l'avais découverte par du bouche à oreille, et puis aussi je l'avais découverte, je vous en ai parlé dans une précédente émission, à l'hiver 2020, alors que j'ai rencontré Alexiane Thiel sur une conférence qui avait été organisée dans la région toulousaine, et qu'elle nous avait justement parlé de cette saga. Et alors, je ne vous cache pas que à la base, je n'avais pas forcément exactement compris l'enjeu de la saga, puisqu'elle nous avait parlé de l'Écosse, de la réminiscence des clans, etc. Et moi, vous me connaissez, dans mon gros délire Outlander, je pensais qu'il y avait une histoire de voyage dans le temps ou de retour dans le passé, mais en fait pas du tout, et c'est ce qui rend le roman et la saga encore plus intéressante à mon sens. Les McCoy, donc, ce sont 6 tomes qui sont parus entre 2019 et octobre 2022. Ils sont disponibles en version numérique, donc parue chez Fixia. Ils sont disponibles en version audio et ils sont disponibles aussi en version poche, et ça c'est chez Hugo Poche qu'on peut les retrouver, donc chez Hugo Roman. On a donc, je vous l'ai dit, 6 tomes. Alors je vais vous donner leur titre, vous allez voir un petit peu, c'est énigmatique, mais justement c'est ça qui est bon. Le premier tome s'appelle « L'ogre et le chardon ». Le deuxième, l'ours et le taureau. Le troisième, la louve et le glaive. Le quatrième, la biche et le limier. Le cinquième, le trèfle et l'agneau. Et le sixième, la reine et le clan. Oui, que des noms de code pratiquement, mais c'est pas pour rien. Effectivement, on est dans un univers parallèle. Alors non, pas du tout parallèle en termes de temps, hein, je vous l'ai dit, ni même de réalité, mais on est dans un monde où on va parler par code, où on va se désigner de manière un peu particulière, et je vous explique tout de suite pourquoi. On est avec une jeune fille qui s'appelle Phèdre Duval, que tout le monde appelle Ed, qui est une jeune fille dont on sait d'emblée qu'elle a vécu une enfance assez traumatisante. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, elle a été lourdement marquée par son passé. C'est une enfant de parents divorcés. Son père est parti depuis une dizaine d'années. Il ne lui a plus donné signe de vie. Son père était écossais. Sa mère, elle, est française. Et entre sa mère, son beau-père et elle, les relations sont assez compliquées. Je viens de vous dire, son père était écossais, car effectivement, au début de l'histoire, on apprend que le père de Phèdre, qui s'appelle donc Alexander, est décédé et qu'il lui a laissé un héritage un petit peu particulier. Dans cet héritage, il lui laisse une somme d'argent assez rondelette, il faut le dire, mais il lui laisse aussi une consigne: aller s'installer en Écosse pour le temps qui lui sera nécessaire afin de prendre connaissance avec son passé, avec son héritage culturel notamment. Ainsi est-il fait, et Phèdre va partir avec une association EF Écosse qui va lui trouver une famille d'accueil. Il s'agit de la famille Brain, avec le père Sean, la mère Elia et le fils Callum. Et également, on va lui proposer un travail, puisque même si je vous ai dit qu'elle dispose d'un petit pactole, le but c'est qu'elle s'imprègne de la culture et de la vie écossaise. Donc elle va trouver un travail à l'Unicorn. L'Unicorn, c'est une boîte de nuit assez sélecte d'Édimbourg, assez connue, qui est dirigé par un homme qu'on appelle Lachlan O'Connor. C'est un Irlandais, lui, en plein milieu de l'Écosse, tout pour faire battre mon petit cœur, passant. Et Lachlan va l'accueillir et lui proposer un emploi. Alors rien de très reluisant, hein, il s'agit au démarrage de s'occuper du ménage et de l'entretien de nuit pendant que le club est dans sa grande phase d'activité, avec une précaution. Il y a un secteur VVP, Very Famous People, dans lequel elle n'a absolument pas le droit d'aller, en tout cas pas sans autorisation. Bien sûr, vous imaginez ? Eh ben oui, Phèdre, dès les premiers soirs de son travail, va se perdre dans la boîte et se retrouver témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir et ce qui va avoir des conséquences assez particulières. Elle va donc rentrer de plein pied dans la partie obscure, dans la partie nébuleuse, dans la partie underground de l'unicorn, c'est-à-dire la partie des clans. Car effectivement, même si les leçons d'histoire nous apprennent que les clans en Écosse ont disparu suite à la bataille de Culloden en avril 1746, et que depuis ils n'ont plus le droit de porter ni le tartan, ni les armes, ni etc. etc. Chut, j'arrête de faire ma prof d'histoire, promis, juré. Il n'empêche que les clans ont survécu en Écosse et que ces clans se font la guerre ou en tout cas sont en forte tension. Il y a un roi d'Écosse qui est Henry Campbell et les différentes grandes familles écossaises vivent tant bien que mal en harmonie, tant bien que mal. Alors mal parce qu'il y a des tensions assez importantes, il y a des inimitiés très fortes entre différents clans, notamment les McCoy, les Mackenzie, etc. Qu'Henry Campbell mène tout ça de main de maître, et puis parce qu'il existe un code, le code d'ailleurs, qui a été édicté depuis des années par la clan O'Connor, donc le responsable de l'unicorn, nom de code le trèfle, et ce code, c'est une espèce de code d'honneur, des choses qui se font et qui ne se font pas, c'est une espèce de loi parallèle, puisque on est bien d'accord qu'on vit tout à fait au 21e siècle, qu'on a donc des personnes qui ont une vie classique, okay, mais qui, en parallèle, sont aussi des lairds, c'est-à-dire des chefs de clan, et qui règnent sur leur clan avec des manières un petit peu ancestrales. En particulier, c'est pas tout rose pour la place des femmes. Les femmes du clan appartiennent au clan. Les femmes de haute naissance, leur destinée est un peu toute trouvée, puisqu'elles sont des objets matrimoniaux qu'on va s'échanger pour former des alliances, ce qui veut dire que dans ce cas de figure, et dans cette optique-là, la virginité des filles est absolument primordial et on se retrouve avec quelque chose comme ça d'un petit peu rétrograde et qui peut avoir des conséquences absolument dramatiques dans les relations entre les clans et puis pour les jeunes femmes elles-mêmes. Les événements s'enchaînent et notre Phèdre va se retrouver pupille de Caleb McCoy. Ça tombe bien, la série c'est celle des McCoy. Oups, tout va bien, on s'est retrouvés. Elle va donc se retrouver pupille de Caleb McCoy. Caleb McCoy, celui qu'on surnomme l'ogre. Ouais, rien que ça, ça donne envie. Et Caleb donc va se révéler être un personnage à la fois très sombre, très taciturne, très solitaire aussi, n'accorde pas sa confiance. Il est assez colérique. D'ailleurs, il a un caractère de cochon, l'ogre, il faut se le dire quand même. Et à côté de ça, il est bien évidemment terriblement sexy, sinon ça ne serait pas drôle du tout. Il va donc prendre sous son aile Phèdre. Or, il la prend sous son aile, en fait, bêtement, parce que c'est un moyen de la protéger. Mais le problème, c'est qu'en devenant pupille du clan McCoy, elle perd à peu près tous ses droits, des fois qu'elle en a, déjà qu'elle n'en avait pas énormément non plus. Et c'est autour de Phèdre et de Caleb que se composent les deux premiers volumes de cette série des McCoy, sachant que Phèdre et Caleb sont malgré tout le fil conducteur de toute cette saga, puisque c'est d'eux dont il va être question à peu près dans tous les volumes, à cette différence près, et c'est l'un des gros points forts de cette saga, qu'on va avoir aussi d'autres personnages qui vont intervenir. Alors je vais vous les présenter très très rapidement pour pas vous en dire trop, et pour pas surtout nuire au secret et au mystère et au plaisir de découvrir chacun des volumes. Donc je vous l'ai dit, l'ogre et le chardon, l'ours et le taureau, les deux volumes ont pour héros principaux Phèdre et Caleb McCoy. Chez les McCoy, on va trouver toute une tribu, tout un clan, c'est le principe. Caleb d'abord a deux sœurs qui ne vivent pas avec lui, qui ne vivent pas donc dans le domaine de la famille. Alors le domaine de la famille, je vais écorcher son nom, c'est une obligation. Le domaine, il se trouve sur une île, qui est l'île d'Inchkeith. Ouais, on va dire ça comme ça, on va s'en sortir comme on peut. Et donc, sur cette île, ne vivent pas les deux sœurs de Caleb, qui sont Elizabeth et Meghan. Elizabeth est une espèce de globe-trotteur qui est partie depuis de très nombreuses années et qui fait donc le tour du monde et de l'Europe pour ne surtout pas être à Inchkeith, décidément j'aime bien me faire du mal. Et quant à l'autre sœur, Meghan, qui était l'aînée de la fratrie, qui aurait dû être l'héritière d'ailleurs du clan, elle a choisi par amour de partir pratiquement 20 ans auparavant. Elle vit à Londres, elle travaille dans le domaine de l'art et elle, son nom de code, c'est l'agneau. on la retrouvera elle aussi. J'ai oublié de vous dire, Elisabeth, elle, c'est la louve. D'accord ? Donc la louve, justement, on va la retrouver dans le troisième volet, où, vous avez vu le troisième volet, je vous ai dit, c'est la louve et le glaive. Le glaive, en fait, il désigne Duncan. Duncan, c'est l'homme de confiance, c'est le bras armé des McCoy. C'est un homme inflexible qui peut paraître extrêmement froid, qui est un homme que j'ai beaucoup aimé découvrir, parce que justement, derrière cette froideur, il y a toute une vie de devoir qui est très, très, très importante. Et c'est un de mes tomes vraiment préférés. J'ai adoré la rencontre entre, ou du moins les retrouvailles, entre la louve, et le limier. Le quatrième volume, lui, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est la biche et le limier. Le limier, il désigne un autre des hommes du clan McCoy. On parle là de Declan. Alors Declan, c'est un personnage qu'on croise dès le premier volume, et c'est un des personnages, je pense, qui est le mieux travaillé, ou du moins dont le travail m'a le plus touché à travers cette série des McCoy. Au démarrage, c'est un séducteur qui se méfie, qui se soucie assez peu des conséquences des filles auxquelles il compte Fleurette, et il va se retrouver embarqué dans un désagrément très 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 important qui va quand même l'obliger à remettre en cause sa manière de vivre, etc. Il est à la fois très très dévoué aux McCoy, de toute façon c'est leur cas à tous, hein. Ils sont prêts à mourir pour leur lairde, et c'est pas qu'une façon de parler pour certains d'entre eux, mais en même temps, il va être aussi soumis à une trahison parmi ses très très proches, et tout ceci va vraiment lui donner l'envie de re-réfléchir, de repenser sa place dans le clan. Est-ce que vraiment il doit y rester attaché? Si oui, de quelle manière? Donc on est avec un homme qui est en pleine remise en question, et c'est vrai que tout au long des volets qui mènent jusqu'à ce volume 4, la biche et le limier, on a cette remise en question extrêmement importante. Elle trouve son paroxysme dans ce tome 4. La biche, là pour le coup, c'est plus une McCoy du tout, mais on va aller dans un des clans rivaux, dans un des clans qui à la fois est un soutien d'Henry Campbell et qui en même temps a juré la perte des McCoy, puisqu'on va aller chez les Mackenzie, et là on va être avec Annabelle Mackenzie, qui est une jeune fille. Alors vraiment, c'est un des volumes que j'ai beaucoup aimé. Je pourrais vous dire ça pour les 6, hein, mais celui-là, il m'a beaucoup touchée parce qu'on est en plein au cœur d'une des très grosses problématiques de cette série des McCoy, à savoir la place des femmes. Et Annabelle Mackenzie, elle n'a été élevée que pour être mariée. C'est vraiment une monnaie d'échange, cette pauvre fille. Et elle est traitée extrêmement durement. On a même pratiquement pas l'impression qu'elle reçoive d'affection de la part, en tout cas, de ses parents. Avec ses frères, c'est un peu différent, notamment avec son frère Elric, le plus proche de ses frères. Mais sinon, alors oui, c'est une jeune fille qui est bien sous tout rapport, qui est bien élevée, qui présente bien, etc. Elle est d'une timidité maladive, et elle va se révéler dans ce quatrième volet, et elle va justement révéler qui elle est, et c'est très 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 important de voir la place des femmes, du moins qu'on leur en laisse un petit peu, justement. Donc ça, c'est pour le volume 4, qui s'appelle donc La biche et le limier. Ensuite, le volume 5, Le trèfle et l'agneau. Le trèfle, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la clan O'Connor, donc c'est l'Irlandais, c'est le responsable de l'Unicorn, le responsable un peu de l'équilibre entre ces clans qui sont vraiment pas faciles à concilier les uns avec les autres, et il va voir apparaître dans sa vie une ombre, un fantôme, à l'inaccessible Meghan McCoy, qui va être obligée de lui revenir, et de revenir en tout cas en Écosse, suite à des incidents très très sérieux dans sa vie. Et l'histoire de Lachlan et de Meghan occupe, eux, les deux derniers tomes, donc Le trèfle et l'agneau, et puis La reine et le clan, avec un regard très intéressant, parce que de la même manière que le tome 1 finit d'une telle façon qu'il est à peu près impensable de ne pas enchaîner le tome 2 tout de suite, le tome 5 finit d'une manière telle qu'il n'est pas possible de partir sans le tome 6. Le tome 6 s'achève sur une vraie fin, bien évidemment vous imaginez que je ne vais pas vous la raconter, sinon il n'y a aucun intérêt, sur une vraie fin, et c'est vrai que quand on est sur une saga telle aussi intense, alors moi je l'ai lu entre l'été et le début de l'hiver 2023, entre le mois d'août et le début du mois de décembre. C'est vrai que quand on est sur une saga aussi intense, avec des personnages qui pratiquement font partie de vos vies, tellement on est pris dans le scénario et dans les intrigues, on peut avoir cette envie du tome de plus. Oui, bien sûr, en tant que fan de la saga, de l'écriture d'Alexian Thiel, etc., on va y revenir juste après, j'adorerais avoir des volumes de plus, et en même temps, les axes narratifs sont parfaitement bien fermés, l'histoire trouve un accomplissement, toutes les questions ont obtenu leurs réponses, etc. Et finalement, je suis assez d'accord avec ce qu'a écrit Alexian Thiel dans ses derniers remerciements, Je trouve qu'un tome de plus, ça serait peut-être un tome de trop, et si c'est faire un tome juste pour en rajouter, je ne suis pas tout à fait sûre de retrouver la même intensité. Après, je vous dis ça, c'est évident que s'il y avait un tome 7, je me jetterais dessus allègrement, et je suis sûre que je serais tout aussi conquise. Mais là, pour l'instant, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un très bel équilibre, une très belle fin, une boucle bouclée, et pour une fois, c'est assez rare pour être signalé, à la fois, je vous l'ai dit, je ne cracherai pas sur un volume supplémentaire, mais je trouve que, voilà, je suis... je suis comblée en tout cas d'être arrivée à la fin de ce sixième tome et d'avoir les réponses que je voulais, et je trouve que c'est extrêmement cohérent. Une présentation donc un petit peu longue de cette série des McCoy, je suis désolée, mais par contre, je ne vous ai pas dit les raisons pour lesquelles j'adore cette saga et pour laquelle j'en parle à tout le monde dans mon entourage, dans ceux qui ne l'ont pas lu, même si je pense qu'en filigrane, vous avez deviné hein, quelles sont les raisons, les motifs particuliers. Le premier motif, c'est déjà c'est la rencontre avec Alexia Antil, qui avait été une rencontre trop brève, mais malgré tout, j'avais été conquise par sa manière de parler de son histoire, par l'enthousiasme qui s'en dégageait. En plus, ça m'avait été conseillé par une amie très proche, donc raison de plus pour plonger dans cet univers, surtout que, vous le savez, vous qui me suivez maintenant depuis quelques années, ou un petit peu moins, on parle d'Écosse, et si on parle d'Écosse, déjà avec moi, on a fait quand même les trois quarts du chemin qui me mène à ma liseuse ou à mon livre papier. À noter d'ailleurs que j'avais commencé par écouter le volume 1 de la saga des McCoy, et puis que finalement j'ai enchaîné les autres en lecture numérique, parce que bêtement je lis beaucoup plus vite en numérique que ce que je n'écoute en audio, et donc j'étais trop impatiente d'avoir la suite. Mais quoi qu'il en soit, donc première partie, l'Écosse, effectivement, bien évidemment, on la parcourt en long, en large, en travers. On la parcourt y compris sur des lieux que je connais bien, puisque j'y ai été et que je n'ai qu'un rêve, c'est d'y retourner. On a par exemple le château de Dunvegan sur l'île de Skye, qui a été un des moments les plus enchanteurs de mon road trip en famille en Écosse, qui est vraiment énormément mise en valeur. On a aussi Édimbourg, etc. Donc l'Écosse est un personnage à part entière, l'amour de l'Écosse, cet amour des clans, de la tradition, etc. Rassurez-vous, hein, on ne va pas voir des cornemuses tout au long de la lecture. On aura des kilts, un petit peu. Allez, je vous laisse sur cette idée-là et moi je continue. Mais quoi qu'il en soit, donc l'Écosse est vraiment une des raisons pour lesquelles on aime ce livre. Mais c'est pas tout. On aime aussi ce livre, en tout cas moi j'adorais cette saga, pour l'intensité et pour l'imagination, pour le scénario. Alors, j'ai pas eu l'occasion de demander à Alexia Antil si elle avait déjà tout son scénario écrit des 6 volumes quand elle a commencé, ou si elle s'est laissée porter par le fil de sa plume. Mais en tout cas, on a une histoire, je vous l'ai dit, extrêmement cohérente, avec des rebondissements qui vont dans tous les sens, avec des situations qui se débloquent quand on les pensait désespérées, des situations qui se désespèrent quand on les pensait sous contrôle. Bref, attendez-vous à tout, à chaque chapitre, et vous ne serez pas déçus. Les révélations tombent en cascade et c'est absolument fabuleux. Bref, vous l'aurez compris, on ne s'embête pas une minute dans cette lecture et on est vraiment happé. Je vous ai dit, il y a pratiquement tous les tomes, il n'y a qu'entre le 3 et le 4 et le 4 et le 5 où j'ai fait une petite respiration entre les deux, parce que ces deux tomes-là, donc la Louve et le Glaive et puis la Biche et le Limier, qui sont donc sur deux couples particuliers, sont un petit peu alors non pas à part hein, parce que l'histoire, la continuité de l'histoire de Phèdre et Caleb va continuer à évoluer jusqu'à la fin du volume 6, mais c'est vrai que là on a deux personnages un peu connexes et donc ça permet de reprendre un peu son souffle. Mais sinon, les deux extrémités de la série, c'est pratiquement, quoi, il me semble impossible de poser le livre pour passer à la suite. Donc là, la richesse du scénario, et puis on a aussi, c'est un autre point fort, une galerie de personnages. On est vraiment sur une saga avec des clans, avec des personnages qu'on apprend à aimer, puis que, ou alors qu'on déteste, mais que finalement on se prend à apprécier. Je sais que par exemple le personnage de Duncan, donc Duncan c'est le Glaive, dans le volume 1, le volume 2 un petit peu moins, mais dans le volume 1 j'avais beaucoup de mal à accrocher avec ce personnage, et en fait dans le volume 3 j'en suis tombée absolument dingue parce que c'est un personnage hyper attachant. C'est le cas aussi pour Declan, donc pour le limier. Donc tous ces personnages là finalement rares sont ceux qu'on déteste du début à la fin. Il y en a quand même quelques-uns, je ne le cache pas, mais sinon beaucoup d'entre eux ont droit à une rédemption, ou en tout cas vont être beaucoup plus nuancés. Il y a un gros travail qui est fait sur les personnages, et c'est d'autant plus intéressant qu'on a beaucoup de personnages. Vous avez vu, j'en ai cité un certain nombre, mais on a des personnages principaux, ou principaux bis, ou secondaires plus, comme vous préférez, qui sont très nombreux et qui composent le maillage. J'aurais pu vous parler de Bran, par exemple, j'aurais pu parler de Mary, j'aurais pu vous parler d'Elia, de Rose, etc., de Xander. Donc il y a tout un tas de personnages. Vous avez vu ça, hein ? Je lance des noms et je ne dis rien de plus. C'est sadique, oui, je sais, bah, c'est un peu l'impression qu'on a aussi parfois quand on lit cette saga, de se dire que vraiment, Alexian Thiel a pris un malin plaisir à torturer ses lecteurs, et moi en tout cas, vraiment j'en redemande. Et puis un autre élément très important, c'est que c'est une romance, enfin une multi-romance, hein, puisqu'on a des multiples couples qui sont impliqués dans cette romance, et c'est à la fois des slow burn à chaque fois, il me semble, oui je crois, mais en même temps ce sont des histoires de passion, où justement le fait de prendre son temps, d'être vraiment sur de la romance qui se construit à coups de personnages hauts en couleur et d'un caractère très 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 celtique, va permettre de ne pas perdre de vue tout le background de l'histoire, tout ce qui l'entoure, à la fois des luttes de pouvoir, des machinations, des complots, etc., mais aussi justement de la psychologie des personnages et de la manière dont se construit un couple, quelle que soit son évidence ou au contraire, quel que soit l'imprévu qui l'accompagne. Donc ça, les romances, elles sont très bien menées. Elles se ressemblent, non, en fait, hein, elles sont vraiment chacune individuelles et en tout cas, moi, elles m'ont toutes séduite, bien sûr, ce qui est quand même plutôt le quelque chose de commode quand on lit une romance. Et puis le dernier des thèmes, des éléments sans doute, pour lesquels j'ai autant aimé cette saga, c'est justement les thèmes abordés. On a bien sûr l'histoire, on a bien sûr, je vous l'ai dit, cette histoire riche en rebondissements, en complots, cette histoire très politique, etc. Mais on a aussi, et je pense que ça serait un tort de le négliger, un roman qui traite des thèmes importants de la société, et notamment de la place des femmes. Alors bien sûr, c'est quand même poussé à l'extrême, puisque sur ce système de clan qui n'a pas tellement évolué depuis le XVIIIe siècle, la femme, elle est vraiment limite un objet en silence. Bon, ça fait mal de dire cette phrase-là. Mais je vous l'ai dit, c'est un objet de tractation, elle n'est pas libre de son corps, elle n'est pas libre de ses décisions, on peut la fiancer à un tel ou finalement la marier à tel autre, on peut l'exiler, on peut nuire à sa réputation en une phrase, bref, voilà. Et en même temps, à travers le personnage de Phèdre, mais aussi à travers par exemple un personnage comme celui de Caitlin Fraser, ah bah tiens, un nouveau personnage dont on n'avait pas parlé, ou à travers celui d'Elisabeth aussi, et puis même celui d'Annabelle, et puis celui de Meghan d'ailleurs, enfin avec plein de personnages féminins, on va avoir finalement une grande modernité qui va rentrer par rapport au clan. C'est-à-dire que les clans, on est quand même en train de leur imposer une espèce de révolution assez innovante, mais aussi, on a quand même toute la place d'une réflexion qui, malheureusement, se pose encore trop souvent aujourd'hui, en 2024, de la place de la femme, du droit de la femme, et des inégalités, et des hommes qui estiment que les femmes sont aptes à se taire, et qu'on s'arrête à peu près là. Donc, ce thème fort, alors je dirais féministe, ou en tout cas ce thème d'égalité entre hommes et femmes, et de la place de la femme dans la société, je trouve que c'est un vrai plus dans cette saga, et on le trouve dans tous les tomes, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas moi j'y étais sensible dans chacun des volumes, avec certains endroits où c'est plus évident que d'autres encore, mais c'est vraiment, il y a même un tome qui est vraiment très 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 marqué là-dessus, je vous dis pas lequel, vous aurez qu'à le deviner, mais sinon on est vraiment sur ce thème-là qui enrichit encore davantage une saga qui était déjà bien bien riche, vous l'aurez compris à travers cette émission. Donc pour résumer, à travers la richesse des scénarios proposés, à travers les romances extrêmement bien menées, à la fois en slow burn et en même temps très très sexy une fois qu'elles arrivent à leur accomplissement. À travers l'Écosse, ah l'Écosse, je suis encore à la limite de reprendre un billet pour repartir. À travers aussi les thèmes forts abordés, cette saga riche en personnages, riche en intrigues, riche en sentiments et en sensations, c'est pour moi une très très grande réussite. C'était l'un de mes grands coups de cœur de 2023. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, si vous aviez ressenti ça, quel est votre volume préféré, quels sont vos personnages favoris, n'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux. Mais en tout cas, un grand merci à Alexian Thiel pour les McCoy, pour ce superbe voyage en Écosse. Et moi, j'attends le prochain pour, pourquoi pas, repartir avec elle. Alors non, pas avec les McCoy, hein, je vous l'ai dit, la saga est finie et à mon sens, elle est bien finie. Mais en tout cas, je prendrai énorme plaisir à lire ses prochains écrits ou en tout cas ceux sur lesquels je suis en retard. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques jours. Dans quelques jours, allez, je lâche un scoop. Dans quelques jours, ça sera une émission spéciale Mélie Milo de Gwen, côté auteur, côté moi, en fait, puisque restez bien à l'écoute, mon petit doigt me dit que dans les jours qui arrivent, vous en saurez plus de Bébé Neuf, et moi, pour mes auditeurs préférés, je ferai une émission spéciale Bébé Neuf. Allez, Bébé Neuf, je vous dis quand même, initiale ST, je vous laisse avec ça. Et n'oubliez pas que même en 2024, même en saison 2, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye.